Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. J'ai une heure pour vous montrer que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Le Salon des seniors démarre aujourd'hui, l'occasion de se pencher sur leur quotidien qui sera aussi le nôtre demain et de regarder ce qui leur permet de rester actifs, de conserver un lien avec les familles et les autres générations. Elle fabrique des bonbons depuis 1900. Kubli sera aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous voulez faire vos courses mais de manière responsable avec vos critères, une appli vous offre la solution, elle s'appelle MyLabel, c'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, on vous attend évidemment, que vous ayez d'ailleurs plus ou moins de 65 ans, vous avez la parole aujourd'hui pour parler avec nous Anissa des seniors.
Oui, vous pouvez nous dire comment vous venez vous aussi en aide au quotidien aux seniors, hashtag Europe 1 pour vos messages sur Twitter. Et puis on vous écoute, vous pouvez appeler Europe 1 chaque jour, c'est votre émission. 39-21, c'est le standard, 50 centimes la minute, Raphaël.
Comment entretenir le lien avec nos seniors? Eh bien, vous allez voir que des associations, des entreprises y ont pensé, ont créé des outils, ont pensé aussi des solutions adaptées pour les découvrir avec nous. Aujourd'hui, c'est Maud Descamps qui m'accompagne. Bonjour Maud.
Bonjour Raphaël.
Et notre coach Guillaume Gibaud, fondateur du Slip français. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Être senior en 2019, ce n'est pas comme il y a 20 ans. Car vous allez voir que les plus de 65 ans aujourd'hui ont d'autres attentes et un quotidien qui a beaucoup, beaucoup changé. Bonjour Valérie Grohoff.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Senior à votre service. C'est une plateforme dédiée au recrutement des seniors, justement parce qu'aujourd'hui, les seniors, bah oui, ils ont envie de travailler.
Exactement. Donc c'était l'origine de la création de ce site, c'est que des seniors avaient envie de travailler, d'autres en ont aussi besoin, clairement, mais il n'existait pas d'initiative voilà, concrète au niveau national qui existait. C'est de là qu'est née l'idée de créer Senior à votre service, donc une plateforme qui met en relation ces jeunes seniors ou retraités avec des recruteurs.
Alors vous avez eu du nez parce que c'était il y a 10 ans déjà. À quel moment vous percevez justement qu'il y a un besoin et que pour l'instant on n'arrive pas à y répondre?
Alors c'était en 2008. En fait, on en parlait beaucoup dans la presse. Il y avait beaucoup de sujets qui traitaient des problématiques de l'emploi des seniors, des retraités au sens un peu large. Et en me penchant sur ce sujet, je me suis aperçue que oui, on en parlait beaucoup, mais que finalement, rien n'était fait pour les aider.
Ça veut dire que d'un côté, il y avait les plus de 65 ans qui cherchaient du travail, et de l'autre, des entreprises qui étaient en demande et personne pour les mettre en relation.
À l'origine, c'était plutôt sur les particuliers employeurs. Il y avait c'est-à-dire vous ou moi qui avons besoin d'un service à domicile. Besoin de faire garder ses enfants, besoin de petits travaux de bricolage, de jardinage à la maison. Et en fait, ces profils seniors retraités sont des profils qui inspirent confiance, qui ont une expérience. Et donc, ces familles cherchaient à entrer en contact avec ce type de candidats, mais ne savaient pas où les trouver. Et de fait, eux pouvaient proposer justement ce type de service. Donc le fait de pouvoir leur proposer une mise en relation à travers une plateforme qui était dédiée leur a permis justement d'entrer en contact. Et après, dans un deuxième temps, le site a été ouvert aux entreprises pour qu'elles puissent, elles aussi, venir recruter ces retraités.
Alors justement, Maud, ils sont combien les retraités à continuer à travailler aujourd'hui?
Eh bien écoutez, ils sont assez nombreux, hein, environ 500 000 retraités
quand
qui
même
continuent aujourd'hui, oui, à avoir un emploi. C'est deux fois plus qu'il y a 10 ans, donc deux fois plus que lorsque vous avez voilà, créé votre plateforme. Alors comment on explique ce phénomène? Bien, d'abord, c'est, vous savez, l'assouplissement des règles cumul entre un emploi et la retraite. Ça a permis à pas mal de retraités eh bien, de retourner au travail. Et puis, aussi eu la hausse de la CSG hein, qui a un peu entamé le pouvoir d'achat des retraités et donc ça en a incité certains à retourner travailler pour eh bien, compenser le manque à gagner.
Ça démarre par quoi? Par quel type d'emploi quand vous lancez la plateforme? Effectivement, ces petits services dont vous parliez et puis petit à petit on se développe?
Exactement. Au départ, on était vraiment focalisé sur les services à la personne. Ceux que je citais par exemple tout à l'heure.
Le bricolage, le jardinage, la garde d'enfants.
Exactement. Le gardiennage de maison, gardiennage d'animaux. Ils sont vraiment d'actualité en ce moment là pour préparer l'été. Et puis, petit à petit, on a ouvert aussi sur des postes en entreprise du type secrétariat, comptabilité, transport de personnes, vente. Et en fait, ce sont aujourd'hui beaucoup de TPE qui viennent sur Senior à votre service pour chercher ces jeunes retraités. Parce
qu'elles viennent chercher de l'expérience.
Parce qu'elles viennent chercher de l'expérience et des personnes intéressées par des temps partiels aussi et très partiels. Un retraité, il ne veut plus travailler 5 jours par semaine, ce n'est plus l'objet. Il veut avoir un complément de revenus. Et du coup, il va être intéressé par ce temps partiel et puis il ne va pas partir au bout de 3 mois parce qu'il va avoir trouvé autre chose. Donc ça permet aussi à l'entreprise d'avoir une bonne stabilité dans le poste avec ce candidat retraité.
Et vous parlez justement de complément de revenus. Ça leur apporte combien en moyenne aux personnes qui viennent sur la plateforme? Je crois qu'il y a Une grosse différence entre les hommes et les femmes.
Il y a une grosse différence. C'est en moyenne 950 euros pour les hommes et autour de 500-550 euros pour les femmes.
Alors, ça s'explique par les profils justement
demandés.
Ça
s'explique par le type de métier en fait sur lequel ils vont s'orienter. Un exemple que je peux donner, c'est que par exemple sur la garde d'enfants, une mamie nounou qui va aller chercher les enfants à la sortie de l'école, en gros, ça va l'occuper 2 heures, 2 heures et demie par jour. Et puis voilà. Alors qu'une personne, un candidat qui va proposer ses services de bricolage, il va pouvoir enchaîner plein de missions s'il le souhaite. Donc forcément, il va y avoir une différence de revenus à la fin du mois.
Que dit notre coach, Guillaume Gibault ?
Du côté, pour les employeurs, il y a des avantages qui à venir sur ce site-là ? Est-ce qu'il y a des taxes ou des charges diminuées ? Ou est-ce que c'est finalement un candidat temps partiel normal ?
Alors, c'est essentiellement quand même un candidat temps partiel classique, mais surtout parce qu'il va être intéressé par ce temps partiel et qu'il ne va pas les lâcher rapidement. Et puis, sur des candidats qui ont plus de 65 ou 67 ans, je crois qu'il y a une exonération aussi de certaines charges sociales, donc il y a un tout petit peu moins de charges. Mais ce n'est pas ça qui va les motiver, en fait.
Ouais,
c'est vraiment le fait que le temps partiel va les intéresser. Et puis, ce sont des personnes qui sont expérimentées. Si vous prenez demain une secrétaire qui vient travailler dans votre entreprise 2 jours par semaine, vous ne savez pas forcément, si vous êtes une toute petite structure, le temps de la former, etc. Et là, elle va être tout de suite opérationnelle.
Maud, on a dit tout à l'heure que ça ramenait un complément de revenus. Justement, en même temps, les seniors ont perdu du pouvoir d'achat.
Exactement. Alors, vous savez, on parle souvent des retraités, mais les seniors, ce sont aussi les actifs qui
les
ont
jeunes
plus,
actifs,
voilà
oui.
Les jeunes, enfin les actifs de plus de 60 ans. Il y a un sondage justement qui est paru ce matin. Sachez que un senior actif sur deux aujourd'hui a du mal à boucler ses fins de mois. Donc on voit la nécessité de trouver un petit complément de revenus. Et on dit également que un senior sur 10 a dû emprunter cette année de l'argent à ses proches.
C'est aussi ce qu'on vous dit quand on vient vous voir, quand on fait la démarche d'aller sur la plateforme.
Alors c'est aussi, il y a plusieurs raisons, et en l'occurrence sur cette génération de jeunes seniors, c'est ce qu'on appelle la génération sandwich. Donc souvent ils sont aussi, bon ils s'occupent d'eux-mêmes forcément, mais ils ont parfois encore un enfant à charge dont il faut financer les études par exemple, et puis leurs parents qui sont âgés, qui vont nécessiter le placement en maison de retraite, ou en tout cas parce qu'il va y avoir une perte d'autonomie, et c'est pas forcément prévu par ces générations de grands seniors. Donc ce sont ces gens qui ont entre 50 et 60 ans qui vont financer ça.
Et ce sont sur la plateforme surtout des 60-70 ans qui viennent faire les démarches ?
Alors, les candidats,
oui.
Alors, la moyenne d'âge est autour de 60 ans, mais donc on va avoir des tout jeunes retraités ou pré-retraités essentiellement, et puis des personnes qui ont justement un peu plus de 55 ans et qui ont besoin aussi de retrouver un emploi ou un complément.
Il n'y a pas de limite d'âge ?
Pas de limite supérieure.
On reste ensemble,
oui.
On continue à s'intéresser à ce qui se fait justement aujourd'hui pour les seniors. À tout de suite.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et aujourd'hui, pour retrouver un travail quand on est senior et communiquer, tout passe évidemment par l'ordinateur. Une société, on a créé un exprès pour les seniors. Elle s'appelle Ordissimo. À tout de suite.
Comment entretenir le lien professionnel, familial ou numérique avec les seniors ? C'est la question que vous posez à vos invités aujourd'hui, Raphaël Duchemin. La France bouge dans ce secteur aussi et vous pouvez réagir à cette émission. N'hésitez pas, vos questions, vos témoignages, vos réactions sur Twitter, hashtag Europe 1 et au standard Europe 1, le 3921. On vous écoute.
C'est souvent en regardant autour de soi que naissent, vous serez d'accord avec moi, les bonnes idées. C'est ce qui s'est passé justement pour Ordissimo. Bonjour Christophe Berlis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez créé avec deux de vos amis votre société et votre ordinateur qui est avec nous ici dans le studio d'Europe 1. Vous le voyez si vous êtes avec nous sur europe1.fr. En vous apercevant tout simplement que vos parents et les leurs ne savaient pas se servir véritablement d'un ordinateur.
Absolument. Mes parents, 60 ans, étaient persuadés que c'était ma faute si l'ordinateur ne marchait pas.
Ah.
Et on a tout bêtement regardé autour de nous et puis on s'est aperçu qu'effectivement, un ordinateur, c'était plutôt une machine professionnelle et qu'il y avait beaucoup de choses à simplifier. Et c'était il y a bien longtemps, c'était en 2002. Donc on a fait pas mal de chemin depuis pour arriver aujourd'hui avec Ordissimo à plus de 100 000 clients. Et une histoire qui est belle.
Qu'est-ce qui ne marchait pas entre les seniors et l'ordinateur ?
Déjà, ce n'est pas tant le terme de senior que la technologie en elle-même. La technologie, c'est un outil. Tout le monde ne sait pas ou n'a pas forcément le temps de se servir d'un outil et donc de l'apprendre. Très concrètement, aujourd'hui, vous avez des virus sur un ordinateur, il faut savoir l'entretenir. Quand vous voulez faire la touche euro, faire ADGRE, il y a plein de choses qui ne sont pas forcément naturelles du tout et qu'on découvre en fait en y passant du temps. Donc d'une machine bureautique, on a vu en faire une machine vraiment la plus simple possible.
C'est-à-dire que vous avez mis des raccourcis, des évidences sur le clavier par exemple ?
Oui, exactement. On a simplifié deux choses qu'on peut toucher, donc vraiment tout ce qui est hardware, le clavier. Par exemple, quand je vais appuyer sur ma touche mail...
Ah, alors, on ne vous entend plus. Regardez, on va tourner.
Hop. Voilà. Quand j'appuie sur le mail, ça permet d'aller voir ses mails. Quand j'appuie sur photo, ça permet d'aller voir ses photos. Quand j'appuie sur le zoom, eh ben, ça permet de grossir ce qu'on a à l'écran.
On n'est plus obligé de chercher, de faire voilà. Tout un parcours à l'intérieur de l'ordinateur.
Exactement. Ça, c'est le point 1, simplifier ce qu'on peut toucher pour que ce soit immédiat. Point 2, l'interface. On écrit en français ce qu'on peut faire. Envoyer un email, voir ses emails, une recherche Internet. On ne parle pas de Chrome, Firefox,
donc j'ai un
plugin.
J'ai un bouton qui me dit envoyer un email.
Exactement. C'est marqué dessus sur la page
d'accueil. Je clique dessus, j'arrive sur ma page.
Exactement.
Voilà. C'est assez génial. Il fallait y penser, c'est tout simple. Et pourtant, ça paraît assez évident. Ça vous a pris du temps de créer justement un ordinateur qui soit fait pour eux.
Ça fait 17 ans, oui.
Parce que vous êtes lancé vraiment en 2005.
Exactement.
Donc, trois ans de réflexion.
Trois ans de réflexion, j'étais encore étudiant. Et 2005, vraiment, premier ordinateur vendu. À monsieur Guedin d'ailleurs, ça ne s'invente pas. Et en fait, on a vraiment appris avec nos clients. Ils nous ont remonté énormément de choses, ce qu'ils faisaient avec l'ordinateur, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ne voulaient pas. Donc aujourd'hui, on a une gamme de 8 produits, des grands, des petits ordinateurs tactiles, pas tactiles.
Et des smartphones, parce que du coup, vous avez fait la même chose avec le smartphone.
Mais oui, démarche assez sympa d'ailleurs. Nos utilisateurs passent 3 heures en moyenne sur l'ordinateur. Ils nous ont dit « faites-moi un smartphone facile ». Donc, on leur a posé la question, qu'est-ce que vous entendez par smartphone facile?
Oui.
On a eu 5000 réponses et ils nous ont dit trois choses. Un, on est senior, mais on veut un produit qui soit beau.
Oui.
Je me définis pas par l'âge, mais par mon usage. C'est pas parce que je ne maîtrise pas bien une techno que je veux un truc qui soit moche à gros boutons. Je veux un truc qui soit sympa. Donc, nous, on a des produits en métal qui sont beaux, qui sont agréables, que ce soit le smartphone ou l'ordinateur. Point 2, nos clients nous ont dit qu'ils raisonnaient en fait pas par application, mais par contact. Ça veut dire que dans notre téléphone Ordissimo, vous appuyez sur un contact, il y a tout ce qu'on peut faire dessus. Envoyer un email, envoyer un SMS. Ah, puis il y a ce truc qui s'appelle WhatsApp. Je vais pouvoir, par exemple, lui envoyer un message, faire une vidéoconférence. Donc tout ça, c'est contextuel.
Mais ça marche aussi pour ceux qui ne sont pas seniors. Hein.
Mais absolument. En fait, on est 60, à peu près 50% de nos clients ont déjà un ordinateur ou ont déjà un smartphone. C'est juste ceux qui ne veulent pas s'embêter.
Que dit notre coach ?
Mais du coup, vous développez donc du hardware, donc de l'équipement sur lequel il y a quand même un peu de temps, j'imagine, de développement chez vous. Et en même temps, la technologie et l'appropriation des usages progressent. Et je sais que les seniors, la silver economy dont on parle, il y a beaucoup de seniors qui sont de plus en plus adaptés. Je crois que c'est fait parmi des meilleurs clients web hein, sur les sites e-commerce, cette population-là. Moi, je vois ma grand-mère que je salue au passage. WhatsApp, elle le maîtrise vachement, elle ne le maîtrisait pas avant. Donc, est-ce que ce truc-là ne va pas vieillir plus vite qu'eux, en fait?
Alors, il y a plusieurs choses derrière ça. Le premier, déjà, c'est le biais parisien. On est aujourd'hui dans un magnifique plateau à Paris. Faut pas oublier que la personne moyenne en France passe pas toute sa journée
sur
un ordinateur.
Elle est où, mamie Guillaume ?
Là, effectivement, elle est parisienne. C'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
On a tendance à oublier cette population, encore une fois, qui passe pas sa vie sur un ordinateur ou avec des technos. La techno, c'est un outil. Le rôle d'Ordissimo aujourd'hui, c'est pas d'inventer la techno de rupture. C'est d'adapter les technos à ceux qu'ils n'ont pas encore utilisés. En clair, d'un point de vue un peu plus théorique, c'est les late adopters. On parle toujours des early adopters, les gens cool qui sont les premiers à utiliser une techno. C'est pas nous. Nous, c'est les late adopters. Et quelle que soit la techno, il y a toujours un late adopters. Notre concept, c'est leur donner confiance. Leur dire, voilà, vous avez un truc facile, vous allez y arriver. Vous embêtez pas avec tout ce que les gens racontent. Vous avez un truc, vous allez vous en sortir. Ça marche, tout est fait pour ça.
Maud, justement, c'est vrai ce que dit Guillaume, hein, les seniors sont de moins en moins exclus du numérique.
Exactement, ça c'est la bonne nouvelle, hein, la fracture numérique a plutôt tendance à se réduire hein, entre la population active et les seniors. C'est le Crédoc hein, qui chaque année publie un baromètre justement sur le numérique. Globalement, ce qu'on sait, c'est que les Français sont de plus en plus équipés, de plus en plus connectés, mais ce qui est intéressant, eh bien, c'est parmi les plus de 70 ans eh bien, qu'il y a eu la plus forte progression, que ce soit en équipement, donc en ordinateur, en portable et même en connexion à Internet.
Avec une bonne perception d'Internet, justement.
Avec une très bonne perception. Hein, les 60-69 ans sont 63% à trouver important d'être connecté à Internet, tout simplement pour pouvoir eh bien, être bien intégré socialement. Et alors, petit quiz, est-ce que vous savez ce que les seniors internautes, regardent le plus sur Internet ?
La météo.
La météo, exactement. Ils sont 82% à regarder la météo chaque jour. Et en deuxième, eh bien, ce sont les emails.
Alors moi, je confirme, ma maman, c'est comme pour votre grand-mère, hein, Guillaume, elle est très, très connectée. En revanche, mon père, il pourrait tout à fait utiliser Ordissimo parce qu'il déteste ça, il ne veut même pas en entendre parler. Donc, il y a encore des gens pour qui c'est effectivement... Ouais. intéressant d'inventer des produits adaptés.
Et surtout, il y a plein de personnes qui ont même déjà un ordinateur, qui sont dans les statistiques dont vous parliez, mais qui en réalité veulent juste un objet simple, qui font email, internet, photo, webcam. Il faut juste que ça marche et pas voir l'entretenir.
Vous fabriquez ici ? Non, vous fabriquez en Asie, mais
alors,
vous,
le hardware,
100%, tout est pensé ici.
Exactement. En fait, toute la valeur ajoutée est faite en France. On utilise des fabricants en Asie et on va pouvoir après injecter notre logiciel et notre intelligence dedans.
Parce que ce serait plus cher de fabriquer en France ?
Oui, c'est infaisable. Mais oui. Ça n'existe pas, en fait.
Ça existe. Il y a des
fabricants.
Il y a de l'assemblage,
mais il n'y a pas de fabricants.
Il y a des fabricants, mais c'est plus difficile, effectivement, de trouver la totalité faite ici en France.
En tout cas, toutes les pièces, effectivement,
les petites pièces à l'intérieur, effectivement.
Oui, c'est ça.
Il faut aller les acheter à l'extérieur et les assembler ici.
En fait, on est dans une logique de volume. Et dans une logique de volume, on a beaucoup plus intérêt à produire là où les autres ordinateurs sont produits.
On reste ensemble. On continue à parler des seniors aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et pour se donner des nouvelles et maintenir le lien en famille, une start-up a réinventé la Gazette. Eh oui, c'est à Saint-Malo qu'est né Familéo. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et aujourd'hui on s'intéresse aux seniors. Raphaël Duchemin, grâce à vos invités, nous découvrons comment on peut entretenir le lien professionnel, le lien familial et le lien numérique avec nos seniors. Vous pouvez bien sûr poser des questions aux invités de Raphaël Duchemin. Vous pouvez nous apporter vos témoignages, nous raconter comment se passe le lien avec les seniors de votre côté. 39-21, c'est le standard d'Europe 1, Raphaël.
La tablette, c'est bien, mais voir les gens, leur parler, échanger, vous serez d'accord avec moi, c'est quand même mieux. C'est comme ça qu'est née l'idée d'une gazette familiale. Bonjour Tanguy Djellis.
Bonjour Raphaël, bonjour
merci,
à tous.
Merci d'être avec nous. Vous avez créé votre start-up Familéo en 2005. L'idée, c'était vraiment, elle est là, hein, cette gazette, je l'ai en main, de revenir au papier.
En fait, l'idée, elle est venue un petit peu comme Christophe, hein, d'un vécu personnel. Voilà, on a offert, alors c'était en Noël 2013, on a offert une tablette à ma grand-mère pour qu'elle puisse suivre justement les conversations WhatsApp qu'on avait tous entre cousins, mais dont elle était exclue, qu'on puisse lui envoyer des mails, des photos et autres. Et donc, on était tous très contents de notre cadeau en se disant qu'on était hyper contents d'avoir une grand-mère qui était geek. Et en fait, en allant la voir quelques mois après, je me suis aperçu...
Il n'y a pas que celle de Guillaume alors, qu'on salue, hein, on lui fait un petit bisou.
C'est gentil, merci.
Elle nous écoute.
La dédicace. Et en allant la voir, justement, je me suis aperçu que bah voilà, la tablette était un peu oubliée au fin fond de son appartement. Je me suis rendu compte durant la discussion qu'elle avait finalement un petit peu de mal à l'utiliser. Et surtout, elle m'a dit d'un air extrêmement nostalgique qu'elle regrettait beaucoup toutes les lettres et les cartes postales qu'on pouvait lui envoyer avant. Donc j'ai vraiment quitté ma grand-mère avec cette idée de permettre à la famille d'éditer un journal familial en papier tout en conservant les habitudes digitales des nouvelles générations. Et c'est comme ça que l'idée est venue et c'est comme ça qu'on a créé Familéo avec mon associé Armel Delesquin.
Le premier journal qui ne parle que de votre famille. Je peux lire ou c'est privé ? C'est un peu privé. On a par exemple la famille, une famille, on ne va pas donner les noms.
Hein. C'est une fausse gazette.
Alors,
une gazette
Paul,
fictive.
Claire et Isabelle, dont il y a les anniversaires de noter, les fêtes aussi des enfants ou des petits-enfants, ceux qui ont posté un message avec les photos et les commentaires en dessous. Alors comment ça marche ? On vient, nous, quand on est de la famille, poster les photos, poster les messages sur un site, le site de Familéo, et c'est vous qui vous chargez justement de compiler tout ça ?
Tout à fait. En fait, c'est extrêmement simple. C'est une application qui s'appelle Familéo. Vous la téléchargez. Alors, il faut que quelqu'un dans la famille s'inscrive. Donc, voilà, souscrive à un abonnement mensuel. Ça coûte 5,90€ par mois pour une gazette par mois. Donc, voilà, on est sur un prix qui n'est quand même pas très élevé. J'en profite pour donner un petit code promo européen pour ceux qui le souhaitent s'ils veulent télécharger l'appli. Et donc, en fait, on télécharge l'appli. Toute la famille s'inscrit dessus pour envoyer des messages voilà, à une grand-mère, à des grands-parents, des arrière-grands-parents. Vous envoyez en quelques secondes votre message, une photo, un petit texte. Et en fait, nous, donc à la fin de la fréquence qui a été choisie, on va juste se charger de mettre en page de manière automatique tous les messages pour les compiler sous la forme de ce petit journal papier qu'on va envoyer par la poste aux grands-parents concernés.
Oui, ça signifie que quand on est à l'autre bout de la France ou à l'étranger, on peut maintenir effectivement ce lien qui était moins évident quand on voulait passer par exemple par les applications ou par Twitter ou par Facebook ou que sais-je encore.
Exactement. En fait, une des grandes particularités de Familéo, donc bon, c'est évidemment la restitution papier qui va créer beaucoup d'émotions. Nous, c'est vraiment ce dont on s'est aperçu, c'est-à-dire que le papier, c'est vraiment une preuve physique, tangible. C'est un cadeau en fait qu'on reçoit par courrier.
On le garde,
on le conserve. C'est un
souvenir.
Très beau support d'échange avec les proches. Donc ça a beaucoup de valeur. Le papier personnalisé, quand il est adressé à quelqu'un, a beaucoup de valeur. Et la deuxième particularité de Familéo, c'est que tous les messages sont à l'attention de quelqu'un. Sur Facebook ou sur WhatsApp, vous écrivez souvent à un groupe, au groupe familial. Sur Facebook, vous écrivez voilà, sur le WhatsApp familial, on écrit à tout le monde. Là, on écrit à mamie, on écrit aux grands-parents, on écrit aux arrière-grands-parents. Chaque message est vraiment à destination de cette personne. Et donc, c'est autant de preuves d'affection que la grand-mère va recevoir dans sa boîte aux lettres quand elle va ouvrir son journal.
Le coach.
Quand on est une start-up, on doit bien comprendre qui est son client. Et du coup, là, pour vous, en fait, c'est quoi le client, le fameux use case? C'est le petit-fils, c'est la petite-fille, la tante, c'est le grand-parent lui-même qui va dire « ça serait bien qu'on mette ça en route ». Comment ça marche
ouais, qui vous allez chercher
ouais. On a mis un peu de temps, effectivement.
Vous êtes allé voir les maisons de retraite, je crois, au départ.
Alors, on a commencé par les maisons de retraite, effectivement, en proposant Familéo à des maisons de retraite qui voilà, souscrivent à un abonnement et après, elles proposent gratuitement Familéo aux familles des résidents. Donc ça, c'est une des offres B2B, qu'on propose. Mais on a lancé il y a 2 ans Familéo pour tous, voilà, donc sur le grand public. Et donc là, effectivement, on a vraiment dû se poser la question de savoir à qui il fallait qu'on s'adresse. Et au fil de nos échecs et de notre apprentissage,
ça fait grandir.
On a découvert et qu'effectivement, la cible, c'était les petits-enfants. Voilà, c'était les petits-enfants. Et donc voilà, et parce que Familéo est très souvent en fait un cadeau. Quoi. La période de Noël, pour nous, est une très grosse période où en fait, les petits-enfants s'organisent pour offrir un cadeau aux grands-parents. Et en fait, qu'est-ce qu'attendent nos grands-parents, si ce n'est du lien social, du lien familial et des photos des enfants et des petits-enfants? Voilà, c'est vraiment un cadeau qui fait beaucoup de sens.
Et alors, je ne l'ai pas dit, mais tout est fabriqué à Saint-Malo.
Exactement.
Vous êtes une vingtaine aujourd'hui.
Tout à fait, on est une équipe de 20 basée à Saint-Malo, donc à 2 pas de la plage, on est super bien, c'est royal.
C'est gentil de nous le dire. Nous aussi, on a du bleu, vous avez vu, hein, mais
exactement.
C'est pas tout à fait le même. Maud, vous aviez une question.
Oui, mais vous y avez partiellement répondu. Vous parliez des maisons de retraite. Je me demandais justement si ça ne pouvait pas être un marché pour vous, développer par exemple des partenariats entre des classes d'école et une maison de retraite, justement pour travailler un peu les liens intergénérationnels.
Ah,
alors, on n'est pas allé sur ce sujet-là, parce qu'en fait, on a déjà beaucoup, beaucoup de sujets à adresser au sein des familles. Voilà, en tout cas, c'est vraiment ce à quoi on s'emploie beaucoup. Mais effectivement, dans les maisons de retraite, on est parti de là parce que il y avait un besoin qui était très très fort de visite et de lien social. Donc c'est quelque chose qui a d'ailleurs bien marché, parce qu'il y a près de 1000 maisons de retraite en France qui proposent Familéo aux familles de leurs résidents.
Et alors je rebondis, pour tout ce qui est justement données personnelles, vous êtes sécurisé, vous faites attention à ce que ça ne soit pas utilisé?
Ouais. Alors c'est blindé, c'est un enjeu, un point extrêmement important pour nous, parce que on a créé cette start-up parce qu'on a envie de créer du lien. Et le lien, il doit s'entretenir dans l'intimité de la famille.
Pas de publicité.
Donc pas de publicité, aucun usage des données n'est fait. Notre business model, il est clair. Hein, c'est un abonnement qui est payé par la famille, ou par une maison de retraite, mais en l'occurrence, plutôt par la famille. Et donc voilà, donc aucun usage des données, c'est quelque chose sur lequel on ne bougera jamais.
C'est bien de le préciser. On reste ensemble, on continue à parler seniors aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend 39-21, sur Twitter aussi, avec le hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge. À vous de venir poser vos questions à nos invités.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h. Aujourd'hui, Raphaël Duchemin s'intéresse à nos seniors. Comment entretenir le lien professionnel, le lien familial et le lien numérique avec nos seniors? Il existe de nombreuses solutions. Nous les découvrons grâce à vos invités. Tiens, je vous rappelle que le Salon des seniors, c'est jusqu'au 6 avril qu'il se tient, ce Salon des seniors. Et vous pouvez réagir à cette émission. 39-21, c'est le standard d'Europe 1. Hashtag Europe 1, ça se passe sur Twitter.
Nous sommes aujourd'hui avec Maud Descamps qui m'accompagne, Guillaume Gibault, fondateur du Slip français, qui est notre coach, Valérie Greau, fondatrice et dirigeante de Seniors à votre service, Christophe Berli, cofondateur d'Ordissimo, et Tanguy Djellis, cofondateur de Familéo. On a, je crois, un premier message sur Twitter, Anissa.
Oui, un message de besoinaide.fr qui nous dit « Présentation de l'informatique aux seniors Ordissimo sur Europe 1, mais hélas, pas assez connu ou distribué dans les lieux de vente fréquentés par les seniors. Assistant informatique dans le service à la personne, Ordissimo peut davantage séduire. »
Christophe, qu'est-ce que vous pouvez répondre à
Je suis bien d'accord avec ça. On est quand même dans 600 points de vente aujourd'hui. On est distribué
partout en France.
Oui, partout en France. Donc on a des magasins type, on est chez Auchan.
Donc des grandes surfaces.
Exactement, oui. Il y a aussi certains Leclerc, certains boulangers. On est chez Fnac Darty sur le web. On a beaucoup d'indépendants également qui proposent nos produits. Donc allez voir la liste sur notre site. Et le plus on est distributeur, le plus heureux on est. Donc s'il veut distribuer nos produits, il est bien sûr le bienvenu.
Effectivement, Ordissimo, combien d'ordinateurs vendus depuis le début?
On a plus de 100 000 clients, donc plus de 100 000 ordinateurs achetés. Ouais.
Et pour les smartphones?
On est un peu plus de 5 000.
Oui.
Déjà, on a lancé en fin d'année dernière, donc c'est pas mal.
Maud,
est-ce que vous démarchez justement les maisons de retraite pour qu'il y ait une introduction, un peu des petites formations à l'informatique sur vos appareils?
Alors, c'est absolument pas un sujet pour nous, dans le sens où nos clients moyens ont entre 60 et 70 ans. ils sont actifs, ils veulent des produits encore une fois réactifs. Et c'est pas, on n'est pas dans le produit gros bouton, on est très différent de Familéo. On est vraiment dans cette approche de dire, moi, je n'ai pas envie de m'embêter, je veux quelque chose de facile, qui va vite. Je fais la même chose qu'avec un ordinateur normal, mais juste en plus simple. Et donc, on n'est pas du tout dans l'aspect un peu dépendance. On est vraiment dans le senior dynamique, qui ne se juge pas par rapport à son âge.
Et du coup, un peu la même question dans votre sens, est-ce qu'il ne faut pas aller voir les petits-enfants pour leur donner ça comme idée, comme cadeau de Noël aux grands-parents? Est-ce que c'est pas
Est-ce que
vous avez une saisonnalité Noël ou fête des grands-mères d'ailleurs qui est...
On a une petite saisonnalité à Noël, mais on s'aperçoit qu'en fait, ce sont vraiment nos clients qui achètent pour eux. Pourquoi? Parce que quand on met 400 euros dans un cadeau, comme coûte un ordinateur Ordissimo, bah, c'est quand même un cadeau assez important et les gens préfèrent se faire plaisir et l'acheter pour eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évangéliser non plus, mais on est quand même sur un achat perso.
Valérie Gruau, justement, le numérique, on parlait de la réduction de la fracture. Vous avez de plus en plus de seniors sur votre site qui s'intéressent à ce secteur?
Alors, en effet, on a eu l'année dernière à peu près 25 000 nouveaux inscrits sur la plateforme. On avait eu 30 000 l'année précédente. Et tous les ans, c'est à peu près dans les mêmes volumes. Donc, ce sont des personnes qui nous ont trouvés toutes seules.
Donc en surfant
sur Internet, exactement. Donc, ce sont des personnes qui ont un ordinateur ou une tablette, parfois aussi le smartphone, mais c'est vraiment plutôt par les ordinateurs et les tablettes que ça arrive. Et donc, ce sont des personnes qui ont beau être retraitées ou jeunes retraitées, qui sont déjà connectées et qui ont un outil informatique.
Tanguy Djedis, vous pensez à la suite à d'autres produits qui pourraient être compatibles ou complémentaires avec votre gazette?
Bah, pour l'instant, on se concentre vraiment sur notre sujet.
Vous avez des demandes qui viennent de partout en France, je suppose.
Voilà, on a des demandes importantes. Il y a près de 45 000 familles qui utilisent aujourd'hui Familéo. Donc aussi bien. Alors évidemment, il y a les maisons de retraite, on en parlait tout à l'heure, mais Familéo va bien au-delà. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui plus de familles qui utilisent Familéo pour des grands-parents qui sont chez eux à domicile et qui ne sont pas dans le cadre de la maison de retraite. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, on voit vraiment que... Donc, on veut vraiment déjà se concentrer sur cette population-là. On mesure qu'on a du sens à adresser ce sujet-là pour faire en sorte que ces personnes-là se retrouvent proches de leur famille. Et on est convaincus, une fois de plus, que le papier et le numérique ne s'opposent pas. On est tous très heureux. On a tous 50 000 photos sur nos ordinateurs. On est très heureux de les voir sur un album photo, sur la table basse. Et c'est vraiment l'angle qu'on a envie de travailler et de voir pour la suite.
Vous pourriez développer ce service-là à l'étranger demain, pourquoi pas?
Tout à fait. On travaille dessus. On est en train de travailler activement sur une ouverture de Familéo en Espagne. Et puis, on regarde également d'autres pays.
Même question pour vous, d'ailleurs. Le clavier, finalement, aujourd'hui, il est en AZERTY, mais vous pourriez le convertir et en faire pour d'autres langues?
Absolument. En fait, on est distribué actuellement dans 5 pays. Et on essaye de faire grandir effectivement cette activité-là. Parce qu'il y a
5 pays, lesquels? Francophones pour l'instant?
Non, on est aussi en Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre, Suisse, Belgique, en fait, ça fait 6. Mais...
Donc peut-être demain le Japon, pourquoi pas ou...
Mais ils sont tout à fait férus de technologie. Et en fait, c'est quelque part la même cible partout, à savoir des personnes qui veulent juste quelque chose de simple pour ne pas s'embêter.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir été en direct avec nous pour parler des seniors aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h35.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Restez avec nous dans 2 minutes. Quelque chose qui fait le bonheur des enfants. Kubli fabrique des bonbons depuis 1900 et c'est l'entreprise qui va bien. Merci.
Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 et la France se régale avec l'entreprise qui va bien, merci, et qui nous fait replonger en enfance aujourd'hui, Raphaël Duchemin.
Eh oui, cette entreprise, elle fabrique du bonheur en sucre, c'est Kubli. Bonjour Gilles Diouf.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le PDG de Kubli. Kubli, confiseur depuis 1900 et tout commence avec le fameux monsieur Kubli, il est suisse, mais il débarque à Paris avec son épouse qui, elle, avait travaillé justement chez un confiseur.
Exactement, à la fin 19e, Jacques Kubli, qui était parti aux États-Unis faire fortune, et il ne l'a pas fait du tout, a eu le mal de l'Europe, il est revenu en Europe, il s'est arrêté à Paris, et donc il a créé sa confiserie rue du Château des Rentiers, dans le 13e arrondissement, et pendant plusieurs générations, la famille Kubli a développé une gamme assez large de bonbons de sucre cuit, de bonbons traditionnels.
Ouais, son fils, son petit-fils, qui prennent effectivement la suite, et puis dans les années 70, il y a un changement de lieu, on part de Paris, on va s'installer dans l'Essonne, et alors l'arrière-petite-fille arrive aussi, Béatrice Kubli, et c'est là, au moment où elle part, que vous
vous faites sa rencontre.
Voilà.
C'est un peu avant même, en 2008.
Voilà,
vous visitez l'usine parce que vous travaillez à l'époque pour des grands groupes et vous avez un vrai coup de cœur.
Voilà. Donc quand j'ai visité pour la première fois cette confiserie, ça a été un choc parce que c'est un univers très particulier avec des machines anciennes. Il y a des tonnes de bronze, de cuivre. On travaille encore à la main. Il y a toute une chorégraphie autour du sucre. Et donc,
une chorégraphie.
Oui. Une chorégraphie, il y a des gestes.
Vous dites, ce sont des artistes.
Ah oui, oui, complètement. Ce sont des artisans. Hein. La main de l'homme est essentielle dans la fabrication du bonbon et on a gardé ce process, c'est-à-dire que il y a différentes étapes du refroidissement, du tempérage, du montage des différentes couleurs. Ça se fait à la main et c'est assez étonnant à voir et on fait des portes ouvertes. Par exemple, ce week-end, on fait des portes ouvertes.
Vous dites un confiseur a des gestes qui ressemblent à celui d'un sculpteur. On peut les voir, ces bonbons sculptés. Hein. Ils sont avec nous ici dans le studio d'Europe 1. Si vous êtes en train de nous suivre sur europe1.fr, vous fabriquez toujours à l'ancienne. Alors, ça éveille plein de choses chez moi. Mmh. Je pense par exemple au petit pois au lard, oui, qu'une voisine de ma grand-mère me donnait à chaque fois dans la boîte en fer qu'elle avait dans le placard. Ça continue finalement, ça résiste au temps.
Alors exactement, on a la chance en France d'avoir un patrimoine culturel énorme. Bon, on connaît les vins, on connaît évidemment le fromage et la pâtisserie, mais il y a aussi dans la confiserie une multitude de recettes, souvent régionales, et qui parfois sont oubliées ou arrêtées faute de confiseurs. Il se trouve que nous avons un process, nous avons une unité de fabrication à Morangis qui nous permet de pérenniser ces recettes. Et ce que vous citiez tout de suite, c'est le petit pois au lard, qui était une recette de la région plutôt centre, Rhône-Alpes et jusqu'à la Côte d'Azur. Et donc, cette recette avait disparu parce que le dernier confiseur avait déposé le bilan. Donc, on l'a remis en route et on a retrouvé la recette. Et depuis, on fait à peu près 10 tonnes.
Et chaque bonbon, comme ça, a une histoire.
Chaque bonbon a une histoire.
On a les oranges, citrons.
Bien sûr.
On a les berlingots, évidemment.
Voilà. Les cacahuètes.
Et alors, les cacahuètes.
Feuilleté cacahuète.
Ça, c'est le premier, non?
Alors, ça, c'est le... Un des premiers produit de la famille Kubli, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on fabrique.
Feuilleté.
Et c'est un peu notre image de marque. Et parce qu'on a une façon de travailler le feuilletage praliné qui donne un rendu exceptionnel.
Que dit notre coach?
Moi, ça me parle. C'est une Madeleine de Proust, ma grand-mère, dont on parlait déjà tout à l'heure, elle avait cela, donc je les adore. Mmh. Mais du coup, forcément, on doit se réinventer quelque part dans ce marché où il y a plein de nouvelles marques, plein de nouveaux goûts, très sucrés, puis finalement pas très sucrés.
Ouais.
Et je viens de regarder, j'ai l'impression que vous n'avez pas de compte Instagram.
Non. Non.
Du coup, est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est manque de ressources? Comment est-ce qu'on fait pour partir de ce patrimoine, de savoir-faire historique?
Parce que vous avez le label patrimoine vivant.
Oui, on est entreprise du patrimoine vivant. Effectivement, on travaille exclusivement avec des matières premières françaises, en dehors peut-être de la cacahuète ou des amandes qu'on est obligé d'acheter à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'on est assez peu communicant ou on est encore en retrait. Bon, on a un petit site internet qu'il faut rénover, mais c'est vrai qu'on a une carence là-dessus et notre marque n'est pas très connue du grand public. Et une des raisons, c'est qu'on travaille beaucoup...
Avec les grossistes.
Voilà, on travaille beaucoup en amont de l'industrie. Une bonne partie de notre clientèle, c'est par exemple des chocolatiers. Nous faisons les intérieurs d'œufs feuilletés pralinés pour les autres packs. Donc, on va être à Pâques prochainement.
Des bonbons aussi pour les apiculteurs, j'ai
vu. Énormément de bonbons au miel. On fait plus de 110 tonnes de bonbons au miel. Les apiculteurs nous amènent leur miel et on leur fait leurs bonbons avec leur miel de lavande, de telle ou telle région. Voilà.
Maud,
ce qui m'interpelle, moi, c'est le packaging aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas le vulgaire sachet plastique dans lequel on a mis les bonbons. Ce sont des jolis bocaux en verre. Ça fait partie aussi de l'image de vos bonbons.
Effectivement, nous, on est plutôt dans les épicerie fine, beaucoup de magasins un peu spécialisés, des magasins aussi de régions avec un certain nombre de recettes, de traditions. Voilà.
Vous avez relancé l'activité parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que quand Béatrice Kubli s'en va, les affaires ne sont pas vraiment prospères. Vous arrivez, vous modernisez quand même tout ça, vous relancez l'activité. Aujourd'hui, vous avez doublé le chiffre d'affaires de 2009, c'est-à-dire du moment où vous êtes arrivé.
Oui, effectivement, on a doublé la production, doublé le chiffre d'affaires en 9 ans.
Et vous avez embauché aussi.
Et on a embauché, évidemment.
11 personnes quand vous êtes arrivé.
Exactement, on était 11 et maintenant on est 25. Et puis surtout... On a réussi à séduire non pas seulement des Français, mais aussi des étrangers. On fait plus de 40%. Voilà, plus de 40% de notre production est exportée en Chine, beaucoup, au Japon, en Corée, au Vietnam, aux États-Unis et ailleurs. Et donc, on est assez surpris de voir que des consommateurs qui sont complètement à l'autre bout du monde avec des habitudes alimentaires très différentes sont étonnés de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec du sucre et un peu d'arôme.
Et alors, ils viennent acheter quoi en priorité? Des coquelicots, des violettes?
Alors oui, alors, les berlingots, les tranches orange-citron, tout ça, c'est des produits qui sont très typiquement français et qui étonnent une personne de Séoul, de Chicago ou d'ailleurs. Donc, on a en France cette particularité d'être à la fois innovant, mais dans la tradition. Pour eux, c'est de l'innovation. Hein. Et on vend, évidemment, en plus, on vend Paris, la France, et on a une image incroyable à l'exportation, surtout en matière alimentaire, mais peut-être dans le textile aussi, par exemple. Voilà, donc on a quand même un avantage énorme là-dessus.
Merci de nous avoir ramenés en enfance pendant quelques minutes. Je sais que les bouches sont pleines. Hein. Là, on est en train de manger des bonbons dans le studio d'Europe 1. Sécubli, c'est l'entreprise bon. Qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui, Gilles Duhaut.
Merci.
Il est 13h47.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Faire vos courses de manière responsable, selon vos critères aujourd'hui, oui, c'est possible. La solution s'appelle MyLabel. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h et tous les jours juste avant 14h. Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour et aujourd'hui, on va essayer de consommer mieux, Raphaël.
Eh oui, Maud, la solution s'appelle MyLabel.
MyLabel, exactement. C'est une application qui permet tout simplement de mieux choisir ses produits dans les rayons du supermarché. Vous savez, entre le sucre ajouté, les conservateurs, le suremballage, eh bien, c'est pas toujours facile de remplir son panier. Eh bien, MyLabel est là justement pour nous aider.
MyLabel que vous avez créé, Christophe Urbain, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Il y a déjà des applis pour faire ces courses, je pense, évidemment, notamment à Youcas. C'est quoi votre grande différence?
On a beaucoup étudié ce qui se faisait et ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y avait pas de solution si on voulait consommer en fonction de critères santé, certes, mais aussi environnementaux ou sociaux. Et puis, une solution personnalisée où je pouvais adapter à mes attentes à moi et pas juste cibler sur un aspect. Et enfin...
Donc du sur-mesure.
Du sur-mesure, voilà. Et enfin, sur les évaluations, comment on évalue un produit? Chacun invente sa notation dans son coin et nous on a voulu se tourner vers des tiers de confiance, les associations, les ONG ou des institutions pour apporter des solutions aux consommateurs.
Alors tout le monde ne connaît pas forcément Youcas ou en tout cas le fonctionnement de ce type d'application. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment ça marche?
Oui, c'est simple. On prend un produit dans un rayon ou chez soi et à travers le code barre du produit, on va pouvoir le scanner avec son smartphone et nous, on va croiser des informations factuelles sur le produit, l'étiquette électronique, si vous voulez, ce qu'il y a sur l'emballage, qui n'est pas toujours où il peut y avoir du factuel.
On ne comprend pas forcément tout ce qui est écrit sur l'étiquette.
Voilà. Ouais. Et ça, on va le décrypter en le croisant avec les informations qui viennent des sources associatives et qui, eux, vont le compléter en disant ah « bah tiens, tel label, voilà ce qu'il veut dire, telle entreprise, voilà ce qu'on en pense sur les différents thèmes durables. »
Que dit le coach?
Il trouve l'idée super. Moi, je pense que c'est vraiment l'air du temps et qu'effectivement, pouvoir regarder dans tous les critères. En fait, on a tous envie, consommateurs aujourd'hui, de choisir les bonnes marques. Et du coup, ma question pour vous, c'est quel est le comportement des marques, en fait, lesquelles vont plus naturellement, facilement collaborer avec vous en disant bah, ça m'intéresse, votre grille de lecture. Est-ce que c'est plutôt les petites marques qui démarrent ou à l'inverse, c'est plutôt les gros maçons qui se disent bah, en fait, on va vraiment prendre le sujet à bras le corps parce qu'on le voit bien, hein, il y a 10, 15, 20 critères, c'est un vrai boulot de fond. Quel est votre ressenti là-dessus? Est-ce que vous sentez que les marques se bougent et si oui, plutôt lesquelles en fait?
Nous, ce qu'on voit, c'est que tout le monde y va. Les petites marques, en général, sont déjà assez devant et les grandes marques ont compris que leurs clients veulent des produits différents sur ces nouvelles attentes. Et donc, c'est des professionnels et si leur client demande quelque chose, ils le font.
Ils le font.
Voilà. Donc, ils sont en retard peut-être pour certains. Certains avancent bien, mais tout le monde y va aujourd'hui, vraiment.
Juste pour être totalement clair, vous êtes complètement indépendant. C'est-à-dire que vous ne vous roulez pas pour une marque ou pour de la grande distribution. Vous ne mettez pas en avant plutôt certains produits. C'est complètement impartial. Voilà.
Alors, surtout pas. Surtout pas, parce que ce qui fait la force de MyLabel, c'est le fait d'avoir des sources de confiance. Et bien évidemment, du moment où on serait estampillé tel distributeur ou telle marque, les associations, elles s'en vont et MyLabel s'écroule. Donc on ne peut pas le faire.
Guillaume?
Et du coup, ma question à beaucoup de points. Comment vous gagnez votre vie, du coup, si vous êtes affilié avec personne?
Alors, on n'est pas affilié. En revanche, il y a un besoin très fort des marques, petites ou grandes, et des distributeurs, d'adapter leur offre et de répondre à ces nouvelles attentes. C'est nouveau, c'est en train de vraiment d'exploser, et ce n'est pas simple. Le produit parfait, il n'existe pas. Donc comment je fais pour faire un produit que les gens vont acheter et qui sera meilleur? Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on agrège les attentes des utilisateurs, de manière anonyme, bien sûr, et on monétise ça auprès des marques en disant, voilà, si vous voulez faire un produit que les gens attendent, c'est dans tel domaine, c'est sur la biodiversité, c'est sur le bien-être animal, et là, vous aurez des gens qui achèteront votre produit, vous aurez un produit meilleur. Donc c'est un cercle vertueux qui part du consommateur, qui passe par les associations et qui fait bouger les entreprises pour revenir vers le consommateur avec des produits meilleurs.
Donc c'est du conseil auprès des marques que vous faites pour les accompagner dans la démarche,
voilà,
c'est ça ?
Exactement.
Remontée d'informations en quelque sorte.
Oui, exactement, c'est de l'information.
Combien de temps vous avez mis à concevoir MyLabel ? Parce que d'autres effectivement sont sur le même créneau. Vous venez tout juste de vous lancer ?
Oui, on vient juste de se lancer. Ça a pris beaucoup de temps. C'est plusieurs années de travail. Il y a bien sûr un travail technique, mais il y a eu un long travail de construction de ce réseau de sources associatives, ONG, institutionnelles, pour les convaincre qu'ils soient en confiance et qu'ils acceptent de travailler avec nous.
Très rapidement, quel est le degré de précision ? Par exemple, est-ce que je peux dire, moi, je ne veux pas de plastique, je veux qu'il n'y ait pas d'huile de palme et que ce soit fait en France ? Est-ce qu'on peut aller aussi loin dans nos critères ?
Alors, on peut aller. Il y a une vingtaine de critères que vous pouvez sélectionner. Nous, on gère en dessous 80 critères, donc quelque chose de beaucoup plus large, qu'on ne montre pas pour l'instant. Parce que les premiers tours qu'on avait eus sur notre application pilote cet hiver, c'était c'est trop compliqué, etc. Donc, on est capable de faire très fin, mais pour l'instant, on a simplifié.
Ça s'appelle MyLabel, c'est la solution. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur
Merci
Europe 1. Nous, on se dit pas demain, ce sera Elisabeth Maude qui
Exactement.
Sera à votre place. Merci à notre coach d'avoir été avec nous. Et demain, ça va vous intéresser, Guillaume. On parlera du retour, grand retour de la filière laine.